Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, un bouillon de lecture un petit peu spécial puisque c'est un bouillon de lecture d'été où nous avons lu un livre à épisode, ou plus exactement une nouvelle en épisode. Hervé et Catherine vous ont lu la semaine dernière le début de Éric Emmanuel Schmitt.
Odette tout le monde.
Odette tout le monde.
Et autres histoires.
Et autres histoires. Et vous allez découvrir la suite maintenant.
Et on ne va pas faire l'injure aux auditeurs de leur résumer ce qu'on a dit la semaine dernière.
Pas du tout.
Pas
mais
du tout. Ils se rappellent.
Qu'ils soient patients. À la fin de l'heure, ils sauront la fin de l'histoire d'Odette et Balthazar.
Garé sur une aire d'autoroute, il remuait un café trop sucré auquel le récipient communiquait la saveur du carton, lorsqu'il remarqua une grosseur dans la poche de son manteau en chamois. Désœuvré, il ouvrit la lettre et soupira en notant que le mauvais goût du papier ne suffisant pas, sa fane avait joint un cœur rouge en feutrine brodé de plumes à sa missive. Il amorça sa lecture du bout des yeux. En achevant, il pleurait. Allongé sur le fauteuil rabattu de la voiture, il la relut 20 fois, au point de la savoir par cœur. À chaque récitation, l'âme candide et chaleureuse d'Odette le bouleversait, versant ses derniers mots tel un aume.
Quand un jour, le plus tard possible, vous irez au paradis, Dieu s'approchera de vous et vous dira « Il y a plein de gens qui veulent vous remercier du bien que vous avez fait sur terre, Monsieur Balzan. » Et parmi ces millions de personnes, il y aura Odette tout le monde. Odette tout le monde qui, pardonnez-lui, était trop impatiente pour attendre ce moment-là.
Quand il eut le sentiment d'avoir usé le effet réconfortant, il alluma le moteur et décida de rejoindre l'auteur de ses pages.
Ce soir-là, Odette tout le monde préparait une île flottante. Le dessert favori de la féroce Sue Hélène, sa fille, post-adolescente affublée d'un appareil dentaire qui allait d'entretien d'embauche en entretien d'embauche sans décrocher un engagement. Elle montait le blanc des œufs en neige en chantonnant lorsqu'on sonna à la porte d'entrée. Contrariée d'être interrompue au cours d'une opération si délicate, Odette s'essuya rapidement les mains, ne prit pas le temps de couvrir la simple combinaison de nylon qu'elle portait et, persuadée qu'il s'agissait d'une voisine de palier, alla ouvrir. Elle demeura bouche bée devant Balthazar Balzan, faible, épuisé, mal rasé, un sac de voyage à la main qu'il a dévisagé avec fébrilité en brandissant une enveloppe.
« C'est vous qui m'avez écrit cette lettre ?»
Confuse, Odette crut qu'il allait la gronder. « Oui, mais... »«
Ouf ! Je vous ai retrouvé !»
Odette demeura interdite pendant qu'il soupirait de soulagement.
« Je n'ai qu'une seule question à vous poser, » reprit-il. « J'aimerais que vous y répondiez. »«
Oui ?»«
Est-ce que vous m'aimez ?»«
Oui ?» Elle n'avait pas hésité.
« Pour lui, c'était un instant précieux, un instant qu'il dégustait pleinement. » Il ne songeait pas à ce que la situation pouvait avoir de gênant pour Odette.
Celle-ci, se frottant les mains d'embarras, n'osait parler de ce qui la turlupinait. Elle n'arriva pourtant pas à se retenir. « Mes œufs en neige. »«
Pardon ?»«
Mon problème, c'est que j'étais en train de monter des œufs en neige. Et vous savez, les œufs en neige, si on attend trop, ils... » Embêtée, elle esquissa un geste qui montrait la déflagration des œufs en neige. Balthazar Balzan, trop bouleversé, n'avait pas suivi.
« En fait, j'aurais une deuxième question. »«
Oui ?»«
Je peux vous la poser ?»«
Oui. »«
Je peux vraiment ?»«
Oui. »
Baissant les yeux sur le sol, il demanda sans oser soutenir son regard à tel un enfant coupable. « Me permettez-vous de rester chez vous quelques jours ?»«
Pardon ?»«
Répondez-moi juste, oui ou non ?»
Odette, impressionnée, réfléchit 2 secondes, puis s'exclama avec beaucoup de naturel. « Oui, mais vite, s'il vous plaît, à cause de mes œufs en neige !» Elle saisit le sac de voyage et tira Balthazar à l'intérieur. Ce fut ainsi que Balthazar Balzan, sans que personne ne s'en doutât à Paris, s'installa à Charleroi, chez Odette Tout-le-Monde, vendeuse le jour et plumassière la nuit.
Plumassière ? Demanda-t-il un soir.
Oui, je couds les plumes sur les costumes des danseuses. Vous savez, les revues, Folies Bergères, Casino de Paris, tout ça. Ça complète ce que je gagne au magasin.
Balthazar découvrait une vie aux antipodes de la sienne, sans gloire, sans argent. Et pourtant heureuse.
Odette avait reçu un don, la joie. Au plus profond d'elle, il devait y avoir un jazz band jouant en boucle des airs entraînants et des mélodies trépidantes. Aucune difficulté ne la démontait. Face à un problème, elle cherchait la solution. Puisque l'humilité et la modestie constituaient son caractère, n'estimant pas en toute occasion qu'elle méritait mieux, elle ne se sentait guère frustrée. Ainsi, lorsqu'elle détailla à Balthazar la barre en briques qu'elle habitait avec d'autres locataires aidés par les services sociaux, elle ne désigna que les loggias peintes en couleurs pastel genre glace estivale, les balcons ornés de fleurs en plastique, les couloirs décorés de macramé, de géranium ou de dessins de marins tenant une pipe. Quand on a la chance d'habiter ici, on ne veut plus déménager. On ne repart que les pieds devant, dans une boîte en sapin. Ah, c'est un petit paradis, cet immeuble. Bienveillante envers l'humanité entière, elle vivait en bonne intelligence avec des êtres qui se définissaient à l'inverse d'elle, car elle ne les jugeait pas. Ainsi, ne serait-ce que dans son couloir, elle sympathisait avec un couple de flamands orange, abonnés au bronzage artificiel et au club échangiste. Elle fraternisait avec une employée de mairie sèche et péremptoire qui savait tout sur tout. Elle échangeait des recettes avec une jeune junkie, déjà mère de 5 enfants, qui avait parfois des crises de rage et griffait les murs. Elle achetait la viande et le pain de M. Villepute, un retraité impotent, raciste, sous prétexte qu'il avait beau dire des âneries. C'était quand même un être humain. En famille, elle montrait une ouverture semblable. L'homosexualité débridée de son fils Rudy lui causait moins d'embarras que la morosité de Sue Hélène, qui traversait une période difficile. En douceur, quoique repoussée du matin au soir, elle tentait d'aider sa fille à sourire, à prendre patience, à garder confiance et peut-être à se séparer de son copain, Polo, un parasite muet, goulu et malodorant que Rudy appelait le « kyste ».
No.
Balthazar fut admis dans ce logis étroit sans qu'on l'ennuyât avec des questions, comme s'il avait été un cousin de passage auquel l'hospitalité était due. Il ne pouvait s'empêcher de comparer cet accueil avec sa propre attitude ou celle de sa femme lorsque des amis leur demandaient de les loger à Paris. « Et les hôtels, ça sert à quoi ?» s'exclamait à chaque fois Isabelle, furieuse, avant de suggérer aux impolis qu'ils seraient si collés sur eux que ça mettrait tout le monde mal à l'aise. Faute d'être interrogé, Balthazar ne se demanda pas non plus ce qu'il faisait là, encore moins pourquoi il y restait. Tant que cette précision lui fut épargnée, il retrouva des forces, ignorant lui-même à quel point ce dépaysement social, culturel, lui apportait un retour aux origines. Enfant mis au monde sous X par sa mère, Balthazar avait vécu dans différentes familles d'accueil, modestes, composées de braves gens qui ajoutaient quelques années durant un orphelin à leurs propres enfants. Très jeune, il avait juré de s'échapper vers le haut en réussissant ses études. Sa véritable identité serait intellectuelle.
Soutenu par des bourses, il apprit le grec, le latin, l'anglais, l'allemand et l'espagnol, dévalisa les bibliothèques publiques pour acquérir une culture, prépara et intégra une des plus grandes écoles de France, l'École normale supérieure, en y ajoutant différents diplômes universitaires. Ses prouesses académiques auraient dû le conduire à un travail conformiste, professeur en faculté ou attaché à un cabinet ministériel. S'il n'avait pas découvert en route son talent d'écriture et décidé de s'y consacrer.
Curieusement, dans ses livres, il ne décrivait pas le milieu auquel il appartenait depuis son ascension sociale, mais celui où il avait passé ses premières années. Cela expliqua sans doute l'harmonie de son œuvre, ses suffrages populaires et certainement le mépris de l'intelligentsia. Devenir un membre de la famille Tout le monde le ramenait à des plaisirs simples, des considérations dépourvues d'ambition, au pur plaisir de vivre au milieu des gens chaleureux. Or, en discutant avec les voisins, il découvrit que pour tout l'immeuble, il était l'amant d'Odette.
Lorsqu'il s'en défendit auprès de Philippe, le voisin échangiste qui avait aménagé une salle de musculation dans son garage, celui-ci le pria de ne pas le prendre pour un imbécile. Odette n'a pas reçu un homme chez elle depuis des années. Et puis je te comprends, hein, y a pas de mal à se faire du bien. Hein, c'est une belle femme, Odette. Elle me dirait oui, je lui dirais pas non. Hein. Déconcerté, sentant qu'il devenait inconvenant pour la réputation d'Odette de démentir, Balthazar rejoignit l'appartement avec des questions nouvelles.
Est-ce que je la désire sans m'en rendre compte? Je n'y ai jamais pensé. Ce n'est pas mon genre de femme. Trop... Je ne sais pas, enfin, non, pas du tout. Puis, elle a mon âge. Si je devais avoir envie, ce serait avec une plus jeune, normalement. En même temps, rien n'est normal ici. Qu'est-ce que j'y fabrique, d'ailleurs ? Le soir, comme les enfants s'étaient rendus à un concert pop, il se retrouva seul avec Odette et posa un regard différent sur elle. Sous la lumière tamisée du lampadaire, flatté par son pull angora, occupé à coudre un jeu de plumes avec une armure de strass, elle lui apparut fort mignonne, ce qui lui avait échappé auparavant. Philippe a peut-être raison, pourquoi n'y ai-je pas pensé ?
Se sentant observée, Odette leva la tête et lui sourit. La gêne se dissipa. Pour se rapprocher d'elle, il posa son livre et servit le café dans les tasses.
« Avez-vous un rêve, Odette ?»«
Oui, aller à la mer. »«
La Méditerranée ?»«
La Méditerranée, pourquoi ? On a la mer ici. Elle est peut-être moins belle, mais plus discrète, plus réservée. Enfin, la mer du Nord, quoi. » S'asseyant auprès d'elle pour reprendre une tasse, il laissa tomber sa tête contre son épaule. Elle frémit. Encouragée, il promena ses doigts contre son bras, son épaule, son cou. Elle tremblait. Enfin, il approcha ses lèvres. « Non, s'il vous plaît. »«
Je ne vous plais pas ?»«
Que vous êtes bête, bien sûr que si, mais non. »«
Antoine ? Le souvenir d'Antoine ?»
Odette baissa la tête, essuya une larme et déclara avec une grande tristesse comme si elle trahissait son mari défunt. « Non, ce n'est pas à cause d'Antoine. »
Balthazar en conclut qu'il avait la voix libre et plaqua ses lèvres sur celles d'Odette. Une gifle retentissante lui brûla la joue. Puis, de manière contradictoire, les doigts d'Odette se précipitèrent sur son visage pour le câliner, effacer le coup.
Oh, pardon, pardon.
Mais je ne comprends pas, vous ne voulez pas ?
Ah, vous faire du mal, non, 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 pardon.
Vous ne voulez pas coucher avec moi ?
Une deuxième gifle fut la réponse, puis Odette, horrifiée, jaillit du canapé, s'échappa du salon et courut s'enfermer dans sa chambre. Le lendemain, après une nuit passée dans le garage de Philippe, Balthazar décida de partir pour ne pas s'enfoncer davantage dans une situation absurde. Alors que sa voiture filait sur l'autoroute, il prit néanmoins la peine de se rendre au salon de coiffure où travaillait Rudy, afin de lui fourguer une liasse de billets.
« Je suis obligé de rentrer à Paris. Ta mère est fatiguée et rêve d'aller à la mer. Prends cet argent et loue une maison là-bas, veux-tu ? Et surtout, ne dis jamais que c'est moi. » Prétends que tu as touché une prime, d'accord ?
Sans attendre de réponse, Balthazar sauta dans sa voiture. À Paris, pendant son absence, sa situation s'était arrangée car on parlait déjà d'autre chose. Son éditeur ne doutait pas qu'avec le temps, Balthazar regagnerait la confiance de ses lecteurs et des médias. Pour éviter de croiser sa femme, il alla rapidement chez lui à une heure où elle travaillait, lui déposa un mot pour la rassurer sur son état présent. S'inquiète-t-elle d'ailleurs, remplit une valise et se rendit en Savoie où son fils séjournait en classe de neige.
« Je dégoterai bien une chambre libre aux environs. »
Sitôt qu'il le retrouva, François ne voulut plus le quitter. Après plusieurs jours passés à skier avec lui, Balthazar se rendit compte que, père absent, il devait rattraper un énorme retard de présence et d'amour auprès de son enfant. De plus, il ne pouvait s'empêcher de reconnaître en lui sa fragilité et son anxiété chronique. François voulait se faire accepter des autres en leur ressemblant et cependant souffrait de ne pas devenir assez lui-même.
« Puisque les vacances approchent, que dirais-tu de partir à la mer avec moi et moi seul ?»
En réponse, il reçut dans les bras un garçon qui hurlait de joie.
Some clear skies have finally opened up my eyes. Living in a lost time, the dawning of a brand new man. So much blood on our hands. King and queen of being lonely. Children of that's the price you pay. Make
Le jour de Pâques, Odette se trouvait pour la première fois face à la mer du Nord. Intimidée, elle grattait des dessins sur le sable. L'infini des eaux, du ciel, de la plage lui paraissait un luxe au-dessus de ses moyens. Elle avait l'impression de profiter d'une splendeur indue. Soudain, elle sentit une brûlure sur la nuque et se mit à penser fort à Balthazar. Lorsqu'elle se retourna, il se tenait là, sur la digue, son garçon à la main. Leurs retrouvailles furent intenses mais douces, car chacun tentait de ne pas blesser l'autre.
« Je suis revenu auprès de vous, Odette, parce que mon fils a besoin de leçons. Vous en donnez toujours ? »
« Quoi ? » ?»«
Des cours de bonheur. »
On installa les balsans dans le pavillon loué comme s'il était naturel qu'il soit là, et les vacances débutèrent. Quand la vie eut trouvé son cours, Odette éprouva le besoin d'expliquer ses gifres à Balthazar. « Je ne veux pas coucher avec vous parce que je sais que je ne vivrai pas avec vous. Vous n'êtes que de passage dans ma vie. Vous êtes entré, vous êtes reparti. »«
Je suis revenu. » »«
Mais vous repartirez, je ne suis pas idiote. Il n'y a pas d'avenir commun entre Balthazar Balzan, le grand écrivain parisien, et Odette Tout-le-Monde, vendeuse à Charleroi. » C'est trop tard. Si nous avions 20 ans de moins, peut-être.
Mais l'âge n'a rien à voir avec...
Si, l'âge, ça signifie que nos vies sont plutôt derrière que devant, que vous êtes installés dans une existence et moi dans une autre. Paris, Charleroi, de l'argent, pas d'argent, les jeux sont faits. On peut se croiser, hein, mais on ne peut plus se rencontrer.
Balthazar ne savait pas très bien ce qu'il attendait d'Odette, mais il avait besoin d'elle, il le savait.
Pour le reste, leur histoire ne ressemblait à rien. Peut-être avait-elle raison en le retenant d'aller vers la banalité de la liaison amoureuse. Elle pouvait pourtant se tromper. Ne s'interdisait-elle pas d'avoir un corps ? Ne s'était-elle pas infligée une sorte de veuvage insensé après la mort d'Antoine ? Il s'en rendit particulièrement compte un soir où une danse s'improvisa dans la maison de pêcheur. Livrée à la samba, libérée par la musique, Odette bougeait sensuellement, gracieuse, espiègle, dévoilant une féminité lascive et insolente qu'il ne lui connaissait pas. Lors de ces minutes-là, Balthazar esquissa quelques pas autour d'elle et ressentit, entre les frôlements d'épaules et les effleurements de hanches, qu'il pourrait aisément se trouver au lit avec elle. Au clair de lune, elle lui fit un aveu ingénu. Vous savez, Balthazar, je ne suis pas amoureuse de vous.
Ah ?
Non. Non, je ne suis pas amoureuse de vous. Je vous aime.
Il reçut sa déclaration comme la plus belle qu'il eût jamais reçue. Plus belle aussi que celle qu'il avait inventée dans ses livres.
En guise de réponse, elle lui tendit le dossier en lézard qui contenait le nouveau roman qu'il écrivait depuis qu'il l'avait rejointe.
Cela s'appellera « Le bonheur des autres ». J'y raconte le destin de plusieurs personnages qui cherchent le bonheur sans le trouver. S'ils échouent, c'est parce qu'ils ont hérité ou adopté des conceptions du bonheur qui ne leur conviennent pas. Argent, pouvoir, mariage valorisant, maîtresse à longues jambes, voiture de course, grand duplex à Paris, chalet à Megève et villa à Saint-Tropez, rien que des clichés. Malgré leur réussite, ils ne sont pas heureux car ils vivent le bonheur des autres, le bonheur selon les autres. Je vous dois ce livre, regardez le début.
À la lumière du photophore, elle contempla la page inaugurale. Il y avait inscrit « Pour dette ». Elle se sentit si légère qu'elle eut l'impression que sa tête venait de heurter la lune. Son cœur manqua à se briser. En reprenant son souffle, elle porta sa main à sa poitrine et murmura « Calme-toi, Odette, calme-toi. » Si, à minuit, ils s'embrassèrent encore sur les joues en se souhaitant de beaux rêves, Balthazar envisagea que, dans les 2 jours qui restaient, il deviendrait logiquement amant.
Mais une mauvaise surprise l'attendait le lendemain. Au retour d'une excursion à vélo entreprise avec François, Rudy et sous Hélène, il découvrit que sa femme et son éditeur patientaient au salon. Lorsqu'il aperçut Isabelle, il flaira un mauvais coup et faillit s'emporter contre elle. Odette le retint.
« Ne la grondez pas. C'est moi et uniquement moi qui suis à l'origine de cette réunion. Asseyez-vous et prenez un gâteau. Ah, c'est fait maison. Je vais chercher à boire. »
La scène qui suivit fut surréelle aux yeux de Balthazar. Englué dans un cauchemar, il avait l'impression qu'Odette se prenait pour Miss Marple à la fin d'une enquête. Autour d'un thé et de quelques petits fours, elle réunissait les personnages du roman policier pour leur expliquer l'affaire et en tirer les conclusions.
Balthazar Balzan m'a beaucoup apporté par ses livres. Je n'ai jamais pensé pouvoir lui rendre ce qu'il m'a donné jusqu'à ce que, par un concours de circonstances, il vienne se réfugier chez moi il y a quelques semaines. Bientôt, il va devoir rentrer à Paris, car à son âge, avec sa notoriété, on ne recommence pas sa vie à Charleroi. Or, il n'ose pas parce qu'il a honte d'abord, mais surtout parce qu'il a peur. Elle se tourna vers Isabelle qui paraissait sceptique devant le mot « peur ».« Peur de vous, madame. Pourquoi ? Parce que vous ne l'admirez plus assez. Vous devez être fière de votre mari. Il rend des milliers de gens heureux. » Peut-être que dans le lot, il y a des petites secrétaires et de minuscules employés comme moi, mais justement, qu'il arrive à nous passionner, à nous bouleverser, nous qui lisons peu, nous qui ne sommes pas cultivés comme vous, cela prouve qu'il a plus de talent que les autres, beaucoup plus. Car vous savez, Olaf Pims, madame, peut-être qu'il écrit aussi des livres magnifiques. Pourtant, il me faut un dictionnaire et plusieurs tubes d'aspirine, rien que pour comprendre de quoi il parle. C'est un snob qui ne s'adresse qu'aux gens qui ont lu autant de livres que lui. » Elle tendit une tasse de thé à l'éditeur en l'accablant d'un œil courroucé. « Alors vous, monsieur, vous devez défendre davantage votre auteur auprès des gens de Paris qui l'insultent et lui foutent le bourdon. Quand on a la chance de fréquenter des trésors pareils, on s'en occupe. Ou alors faut changer de métier, monsieur. Tiens, goûtez mon cake au citron. Je l'ai cuisiné spécialement. » Terrorisé, l'éditeur obéit. Odette se tourna de nouveau vers Isabelle Balzan. « Vous croyez qu'il ne vous aime pas ? Qu'il vous aime plus ? C'est peut-être ce qu'il croit aussi. Pourtant, j'ai remarqué une chose, moi. Votre photo, il la garde continuellement sur lui. » Isabelle, atteinte par la simplicité d'Odette, baissa la tête et devint sincère. « Il m'a tellement trompée. » « Ah ! Si vous croyez qu'un homme, ça ne doit pas flirter ailleurs ni renufler ailleurs, faut pas prendre un homme, hein, madame, mais un chien. Et encore, faudrait le tenir enchaîné à sa niche. Moi, mon Antoine, que j'aimais tant et que j'aime autant 20 ans après, je me doutais bien qu'il allait laisser traîner ses pattes sur d'autres, hein, différentes, plus jolies peut-être, ou tout simplement avec une autre odeur. N'empêche, c'est dans mes bras qu'il est mort. Dans mes bras, en me regardant. Et ça, ce sera mon cadeau pour toujours. » Elle lutta un instant contre l'émotion où elle était tombée sans l'avoir prévue et s'obligea à continuer. « Balthazar Bazan va revenir vers vous. J'ai fait le maximum pour vous le retaper, pour vous le remettre en forme, pour qu'il sourie, qu'il rie. Parce que franchement, des hommes comme ça, si bons, si doués, si maladroits, si généreux, on ne peut pas les laisser se noyer. » Moi, dans 2 jours, je rentre à Charleroi, je retourne au magasin. Alors, je voudrais pas que mon ouvrage se perde. »
Balthazar contemplait avec douleur Odette qui, publiquement, déchirait en morceaux leur histoire d'amour. Il lui en voulait, il la détestait de lui infliger ça. Il lui semblait qu'elle avait une expression trouble, égarée, une figure de folle. Mais il sentait qu'il était inutile de s'opposer. Si elle avait décrété qu'il en serait ainsi, elle n'en démordrait pas. Avant de reprendre la route, il entreprit une balade au milieu des dunes avec Isabelle. Ni l'un ni l'autre n'étaient convaincus qu'ils arriveraient à revivre ensemble, mais pour François, ils avaient décidé d'essayer.
Lorsqu'ils revinrent à la maison de pêcheur, une ambulance les croisa en déchirant l'air de ses cris. Odette venait d'être victime d'une crise cardiaque. Tant que sa vie fut suspendue à un fil, tout le monde demeura à Blickenbleck. Après que le service de réanimation eut confirmé que ses jours n'étaient plus en danger, l'éditeur, Isabelle et son fils regagnèrent Paris. Balthazar, lui, s'arrangea pour prolonger la location de la villa. Il s'occupa de Rudy et Sue Hélène, stipulant qu'il devait cacher à leur mère qu'il était demeuré là.
Plus tard, quand elle ira mieux.
Chaque jour, il emmenait les enfants à la clinique et les attendait sur un siège au milieu des plantes vertes, des mamies en robe de chambre et des patients errants avec leur perfusion au bout d'une perche. Enfin, Odette reprit ses forces, ses couleurs, ses esprits et s'étonna que quelqu'un eût placé la photo d'Antoine sur sa table de chevet. Qui a fait ça ? Les enfants avouèrent que l'initiative venait de Balthazar et que celui-ci, resté à Blickenbleck, s'était occupé d'eux à l'instar d'un père. À l'émotion de leur mère, à l'affolement des appareils cardiologiques, à la danse des diagrammes verts mesurant le rythme des palpitations, les enfants comprirent que Balthazar avait eu raison d'attendre sa convalescence et se doutèrent que son premier malaise venait de ce qu'elle avait repoussé Balthazar, ce que son cœur n'avait pu supporter. Le lendemain, Balthazar pénétra ému comme s'il avait 15 ans dans la chambre d'Odette. Il lui présenta deux bouquets. Pourquoi deux bouquets ?
Un de ma part et un de la part d'Antoine.
Antoine ? Balthazar s'assit près du lit en désignant la photo de son mari avec douceur.
Nous sommes devenus très bons copains, Antoine et moi. Il m'a accepté. Il considère que je vous aime suffisamment pour avoir droit à son respect. Lorsque vous avez eu votre malaise, il m'a avoué qu'il s'était réjoui un peu vite et il a crié que vous veniez le rejoindre. Puis il s'en est voulu d'avoir eu une telle pensée si égoïste. Maintenant, pour ses enfants et pour vous, il est rassuré que vous alliez mieux.
Mais qu'est-ce qui vous a dit d'autre ?
Ça ne va pas vous plaire.
Balthazar se pencha respectueusement vers Odette pour murmurer.
Il vous a confié à moi.
Bouleversée, Odette se mit à sangloter en silence, touchée au plus profond. Elle essaya néanmoins de plaisanter. Il ne demande pas mon avis ?
Antoine ? Ah non ! Il prétend que vous avez une tête de bois.
Il se pencha davantage et ajouta avec une tendresse irrésistible.
Je lui ai répondu que j'étais d'accord.
Ils s'embrassèrent enfin. Aussitôt, les appareils cardiologiques se mirent à trépider. Une sorte d'alarme retentit, appelant le personnel au secours, parce qu'un cœur s'emballait. Balthazar détacha ses lèvres et murmura, en regardant Odette.
« Calme-toi, Odette. Calme-toi.
Depressione, di ipocondria o di delusione, di odio sociale, di rassegnazione o di religione. Thank you. giovane età, ormai in pensione. Per troppa prudenza o poca attenzione, di libertà o di reclusione, di missili in guerra, di male d'amore o un colpo di sole. Fuori strade spoglie, nessuno sa che cosa accadrà. Soffia vento freddo sopra i nostri giorni e dietro le porte armati di sogni, aspettando che torni. La nostra vita
Eh bien, c'était donc la deuxième partie de cette nouvelle d'Éric Emmanuel Schmitt qui s'appelle
Odette, tout le monde.
Et alors, autres histoires.
Non, et autres nouvelles. Ça a été publié en 2006 chez Albin Michel. Je crois que j'avais oublié de le dire au début.
Et on avait précisé la première fois que c'était aussi un film, que ça avait été d'abord un film d'ailleurs.
Voilà. Oui, d'abord un film qui ensuite a été transformé en nouvelle.
Très bien. Eh bien, bonne fin d'été à tous. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.